20h05, bon début de soirée avec nous au 98.5. Salutations à tous nos auditeurs, nos auditrices partout au Québec via nos stations du réseau Cogeco et nos stations affiliées également. Merci d'être là. Achetez-vous en ligne? T'achètes en ligne, Maxime? Toi, tu fais des achats de temps en temps? Des disques, des affaires de musique ou d'autres choses? Ouais, quasiment tout, hein? OK. Et je pense que vous avez tous été témoins et vous avez tous entendu les messages qui nous viennent des entrepreneurs, qui nous viennent du premier ministre, puis on veut tous favoriser l'achat local, et on s'entend qu'actuellement l'achat, à part pour ce qui est de notre épicerie, l'alimentation, puis quelques autres produits, eh bien, ça se passe en ligne. Jusqu'à quel point la clientèle est prête? Je pense que la clientèle est de plus en plus prête à acheter en ligne. Est-ce que vous êtes prête ou prêt à acheter ailleurs que chez Amazon? Nos entreprises sont-elles prêtes à accueillir cette vague de plus de Québécois et Québécoises qui veulent dépenser localement en ligne? Eh bien, c'est des questions auxquelles on va tenter de répondre au cours des prochaines minutes avec notre prochain invité, porte-parole du CEFRIO, qui est un organisme indépendant et partenaire du ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui soutient l'innovation du numérique dans les petites et les grandes entreprises, les services publics et les grands réseaux. Et cet invité, Bruno Guglielminetti, que vous connaissez probablement si vous êtes déjà quelqu'un qui suit de près tout ce qui se passe sur le web. Bruno suit ça depuis que ça existe, le numérique. Il est avec nous, je l'accueille avec grand plaisir. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir, Mario.
Dis-moi, as-tu l'impression que, premièrement, les Québécois sont prêts à... Je ne sais pas dans quelle proportion ils achètent déjà en ligne, peu importe où. As-tu une idée de ça, à la lumière d'une enquête qui a été réalisée récemment?
Bien, tout à fait. Les Québécois, quand on regarde la population en général, on parle de 63% des Québécois qui achètent sur Internet. Et donc, c'est énormément... Juste donner une idée là, aux gens qui nous écoutent. En 2019, l'an dernier, il y a 12,5 milliards de dollars qui ont été dépensés ou investis, ça dépend du type d'achat, j'imagine, dans l'économie numérique. Là. Donc, c'est autant d'argent qui a été mis dans du commerce en ligne, que ce soit québécois ou étranger.
Wow! Et ça, tu parles-tu de 12,5 milliards dépensés à partir d'ici?
Oui, tout à fait.
Wow! C'est considérable! Et le pourcentage, est-ce qu'on a une idée, si on décortique ça ou on n'est pas rendu là, à savoir combien de ces 12,5 milliards-là s'en vont chez Amazon ou des plateformes extérieures?
Écoute, ça, on n'a pas le détail parce que même dans le contexte de Amazon, il y a évidemment des marchands québécois qui sont là. Mais puisque tu mentionnes l'éléphant dans la pièce,
oui,
quand on parle de commerce électronique, écoute, quand on regarde, là, si on regarde la population en général, donc branchée, pas branchée, là,
oui,
c'est 35% des adultes québécois qui magasinent sur Amazon. Mais si on parle des cyberacheteurs, donc des gens qui sont habitués, là, un peu comme Maxime qui achète fréquemment en ligne, c'est 57% des acheteurs québécois sur Internet qui consomment, qui vont au moins une fois par mois sur Amazon, c'est énorme.
C'est considérable et c'est graduellement que ça s'est passé. Ça, ce sont des statistiques qui concernent nos habitudes pré-COVID-19, Bruno?
Oui, tout à fait, parce que ce qui est intéressant, ben ça, c'est des chiffres qui datent de janvier. L'équipe du CEFRIO avait fait un échantillonnage et donc c'était cette période-là. Mais sauf que, évidemment, sachant que ça allait changer avec les deux dernières semaines qu'on a passées, il y a l'équipe de BIP Recherche qui a mis l'épaule à la roue et on a été faire un tour pour voir ce qui se faisait donc dans les gens qui étaient en ligne. Puis on s'est rendu compte qu'il y a 28% des adultes qui utilisent l'Internet qui ont carrément changé leur habitude. Ils se sont mis, bon, à acheter. Quand on regarde aussi, on pose la question aux gens, il y a 60% des gens qui nous disent qu'ils ont l'intention d'acheter davantage pour les biens de consommation là, du quotidien. Mm-hmm. Puis ça, c'est la bonne nouvelle pour les commerçants québécois. On apprend qu'il y a 79% des adultes québécois qui veulent acheter dans les commerces locaux qui sont en ligne, évidemment, mais qui veulent acheter québécois. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ce qu'on entend, c'est que le message passe. On dit acheter québécois, acheter en ligne, mais acheter québécois.
Oui. Et par groupe d'âge, j'imagine que les habitudes sont différentes. C'est les plus jeunes qui dépensent le plus ou en tout cas qui sont le plus ouverts ou habitués de dépenser en ligne, Bruno?
Ouais, ben effectivement, quand on commence à regarder les différentes tranches d'âge, on se rend compte que les 18-34, ben c'est presque rendu une habitude, un incontournable de leur côté. Plus on vieillit, c'est fréquent, mais le taux d'achat en ligne diminue, mais c'est là. Et là, quand on parle de 63% de toute la population québécoise qui va magasiner en ligne, c'est pas rien là.
C'est pas rien certainement. Quand tu mets le montant que tu tu nous as donné au début de la conversation de 12 milliards et demi de dépenses en ligne à partir de portefeuilles québécois. C'est immense. Alors, si on peut en récupérer une partie, mais là, l'autre partie de l'équation, que les consommateurs, que les gens soient prêts à acheter en ligne, c'est une chose. Ensuite, qu'ils soient prêts à acheter en ligne, mais auprès des entreprises d'ici. Est-ce que nos entreprises sont équipées pour recevoir ces commandes-là puis faire du commerce électronique?
Ouais, ben c'est là où l'équation est plutôt difficile. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des entreprises qui commencent à offrir leurs services, leurs produits en ligne. Et puis, on l'a vu hein, récemment, la semaine passée, il y a eu l'histoire des chaînes alimentaires qui avaient le service en ligne. Sauf que les gens se rendaient là, ils étaient capables de faire leur épicerie en ligne, ils trouvaient tout ce qu'ils voulaient. Mais c'est quand venait le temps de la livraison, là, c'était plus difficile. Et c'est là qu'on est en train de se rendre compte que les cybercommerçants ou les commerçants québécois qui sont en ligne, ça va pour la partie transactionnelle, mais une fois que vous l'avez acheté pour se le faire livrer, c'est un petit peu difficile. Évidemment, là, ils sont rendus compte du problème et ils sont en train de trouver des solutions et ça va se régler dans le moyen terme, mais c'est là où il y a un défi au niveau du commerce en ligne au Québec. C'est ce qu'on appelle toute la chaîne de distribution. Une fois que vous avez cliqué, que vous avez acheté, c'est de l'obtenir plus rapidement. Vous savez, avec le temps, on a développé une mauvaise habitude, c'est d'attendre le produit qu'on a acheté dans les 24 heures. Amazon nous a habitués à faire ça. Ben, les Québécois, quand ils se retournent de l'autre côté, ils se disent, ben, nous, on va avoir la même expérience. Donc, la barre, elle devient haute. La bonne nouvelle, c'est que le Cefrio, quand ils ont fait leur enquête, ils se sont rendus compte que le service de livraison de 24 heures, c'était une priorité, mais seulement pour un Québécois sur deux. Un sur trois. Mais ce qui est encore plus important, et ça, c'est faut le rentrer dans la tête des gens qui se lancent dans le commerce en ligne, c'est qu'il y a 80% des consommateurs québécois qui veulent avoir aucun frais de livraison. Et c'est là où il va falloir que les commerçants en ligne soient ingénieux pour arriver à calculer leur affaire, mais pour ne pas refiler nécessairement la facture.
Et c'est là que le consommateur va comparer le prix de son produit Amazon, livraison, quand tout est intégré dans le prix, versus le produit local, et on devra accepter probablement de payer plus cher pour encourager l'économie d'ici.
Ouais, puis c'est intéressant ce que tu dis parce que le réflexe de comparaison, quand je regardais la dernière livraison de l'étude du Cefrio, on se rend compte que qu'on soit en ligne ou qu'on soit en magasin, on a le réflexe comme consommateur québécois. Les gens, la première chose qu'ils font quand ils sont dans un magasin, c'est qu'ils sortent leur téléphone cellulaire pour comparer les prix. Et puis, entre les magasins pour voir s'ils font une bonne affaire en achetant dans ce commerce-là. Alors, il faut être compétitif autant dans les magasins de briques et mortiers qu'en ligne, parce que là, les consommateurs, ben, ils ont les outils pour chercher.
Et quand tu regardes ça, là, c'est un moment pivot de notre économie, de toutes les économies à travers le monde, à travers tout ce qu'on traverse et les transformations qu'on risque de vivre. Puis c'est difficile de spéculer, d'anticiper comment tout ça va se traduire dans l'après-COVID, mais serais-tu d'accord pour dire que pour tous nos commerçants, toutes les industries qui veulent reprendre un petit peu d'activité, c'est un moment vraiment important pour eux en ce moment?
Écoute, Mario, c'est pour je citerai pas textuellement le bon docteur Horacio Arruda, mais le Québec qu'on connaît aujourd'hui et le Québec après le coronavirus, ça sera pas le même parce que on va avoir passé des semaines, peut-être des mois à développer des habitudes en ligne. On va magasiner plus. Déjà, là, on le fait plus. Là, on a vu des augmentations dans les deux dernières semaines. Je regardais d'autres études qui étaient sorties. De certains domaines, il y avait du 160% d'augmentation là dans certains domaines. Mais donc, c'est ça. On va prendre des habitudes au niveau de l'achat en ligne, du télétravail, de la communication en ligne. Alors, évidemment, c'est sûr que ça va changer des habitudes. Alors, on ne sera plus jamais... Puis, je pense pas qu'on peut pas dire on revient à ce qu'on faisait, parce que les gens vont se rendre compte que tous ces outils-là, ben, ça leur facilite la vie. Alors, évidemment, on va y aller avec de façon proportionnelle. On va peut-être en faire un petit peu plus d'un, moins de l'autre. Mm-hmm. Mais c'est sûr que on reviendra pas à ce qu'on avait comme utilisation de l'Internet ou du commerce en ligne, là, particulièrement pour ta question. C'est sûr que les gens vont le plus l'utiliser dans l'après-COVID.
J'ai plutôt tendance à être d'accord avec ta vision des choses. Le résultat d'autant de fréquentation des différents sites puis de l'utilisation de la bande passante d'Internet fait que les raisons de la difficulté à fournir, Bruno, j'ai vu un tweet que tu as relayé aujourd'hui à ce sujet-là. Que disent les entreprises? Est-ce qu'il y a moyen de sortir de ça? Est-ce que c'est 5G qui est la solution? Comment tu vois ça? Je suis vraiment pas un expert là-dedans, là, fait que c'est la question d'un amateur.
Bien, c'est sûr que dans les médias, ce qui est important, c'est que tous les gros utilisateurs ou distributeurs de contenu lourd sur Internet, quand je parle de contenu lourd, bien évidemment, on peut penser à la vidéo, bien, c'est de s'assurer qu'on diminue la qualité. Puis ça a été fait dès le départ, il y a presque 2 semaines. Maintenant, le temps passe vite. La France avait demandé aux gros joueurs de YouTube et Netflix d'abaisser la qualité dans laquelle leur signal était disponible. Ils l'ont fait, puis tant qu'à le faire pour la France, ils l'ont fait pour la planète en entière. Donc, ça prend déjà moins d'espace sur la bande passante, mais après, bon, il faut rajouter les autres. Hein. Facebook, il y a énormément de vidéos qui se font. Il y a les vidéoconférences, tous les services de vidéoconférences, que ce soit Teams, Skype et Zoom et compagnie, eux aussi ont dû rabaisser. Et là, on est en train de regarder. Il y a les plateformes de distribution de jeux vidéo, Steam notamment, qui est le gros joueur, qui a dit qu'ils allaient attendre pour diffuser une mise à jour de leur plateforme pour pas trop prendre de bandes passantes. Il y a des éditeurs de jeux vidéo qui vont essayer de moins distribuer rapidement des mises à jour, justement pour pas encombrer le réseau. Alors, tout le monde fait son effort là-dedans. Puis de l'autre côté, bien, il y a ceux qui s'organisent pour gérer le trafic là-dessus, si tu veux, qui s'occupent des nœuds. Bien, eux aussi, ils regardent, je dirais, à la seconde pour voir les volumes, pour s'assurer que tout se passe bien. Mais je pense que ça, c'est un peu la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a mis du sien. Et surtout, c'est que les gros joueurs ne voulaient pas se faire dire, ben là, vous arrêtez. Netflix, c'est fini parce que là, vous prenez trop de bandes passantes. Alors, ils jouent bon citoyen et on va voir qu'est-ce que ça va donner à moyen terme.
On diminue un petit peu la qualité du signal, mais on continue de rejoindre le plus de monde. On a plus de courriels que jamais de Netflix. Et tu suggères, je sais pas combien de films puis de téléséries. Puis, ils lâchent pas le morceau. Ils sentent que c'est une période où les gens ont l'attention des gens. En terminant, oui. Bruno Guglielminetti, je te demanderais ceci. C'est une opinion que je te demande. J'entends plusieurs commentaires de gens qui expriment un inconfort et qui même servent des avertissements quant à tout ce qu'on met en ligne là, actuellement. Il y a des défis de photos, d'antan, de ci, de ça. Les gens vivent beaucoup en ligne actuellement et on dit que ça profite au GAFA. Là, puis tu pourrais peut-être nous rappeler qu'est-ce que le GAFA. Puis as-tu une inquiétude par rapport à ça, toutes ces données que nous propulsons en ligne puis qui se retrouvent sur les sites de ces grandes compagnies, de ces grandes multinationales qui œuvrent en ligne là?
Ouais, ben GAFA, bon, on parle de Google, Apple, Amazon, Facebook et compagnie, les Microsoft, ce sont les gros joueurs de l'internet et ces gens-là, ben évidemment, ils vivent en partie à partir de l'information qu'ils arrivent à récupérer de l'internet et c'est de l'information et dans le cas qui nous intéresse, quand on parle des fameux défis, là, on en a vu dans les derniers jours, oui. Il y a des gens qui ont lancé des défis de mettre des photos d'eux plus jeunes. Ben déjà qu'il y avait énormément de photos d'eux à leur âge actuel depuis 10 ans, mettons, ben là, maintenant, ils sont en train de donner aux algorithmes qui font de la reconnaissance faciale leurs photos quand ils étaient plus jeunes. Ils sont en train de nourrir, de mettre dans le paysage numérique des photos d'eux plus jeunes. Alors, ça va juste permettre aux ordinateurs de dire, OK, lui, quand il était jeune, il avait l'air de ça, puis aujourd'hui, il a l'air de ça. Alors là, on est juste en train de nourrir ces appareils-là, parce que vous pouvez être sûr que si c'est pas les gros joueurs, que c'est pas les Facebook et les Google de ce monde, il y en a d'autres qui sont, moi j'appelle ça les plus smart, qui sont moins connus, puis qui sont en train d'utiliser ces images-là, évidemment de façon illégale.
Pour créer des comptes illégaux.
Exactement, pour nourrir l'apprentissage de leur machine qui sera capable probablement de faire de l'extrapolation. Dans certains cas, ça peut être intéressant, mais dans d'autres cas, évidemment, ben c'est l'utilisation de données personnelles, mais que nous-mêmes, on décide de mettre en jouant le jeu, de mettre là. Puis à la blague, moi, je disais cette semaine, quand j'avais vu cette histoire-là, j'avais dit bientôt, il va y avoir le défi publié sur Facebook, l'information que vous ne voudriez pas partager avec personne. Il y a sûrement du monde qui va répondre.
Qu'est-ce qu'on n'a pas partagé? Bruno, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Au plaisir de te reparler, bien sûr. N'hésite pas à me faire savoir s'il y a d'autres sujets, là, puis on va s'en reparler, bien sûr, parce que tout se passe en ligne actuellement, là, en grande partie, fait qu'il faut vraiment qu'on s'y intéresse. Merci, Bruno.
Merci, Mario. Plaisir partagé.
Une excellente fin de soirée. Tout un plaisir de l'avoir accueilli. Bruno Guglielminetti, vous pouvez le suivre sur Twitter également et il relaie beaucoup d'informations qui concernent le numérique et l'information tout court. Dans un instant, il est copropriétaire et directeur d'un bar, d'un club, Comedy Club, Terminal Comedy Club. Qu'est-ce que tu fais quand ça fait pas longtemps que tu es en business, puis là, tout est obligé d'arrêter, les paiements, puis tout ça, les obligations? Tu sais, on demande aux propriétaires d'être indulgents avec leurs locataires. Est-ce que les banques sont indulgents avec les propriétaires de nouveaux commerces actuellement quand tout est arrêté? Qu'est-ce qu'on fait avec les barils de draft pleins dans lesquels il n'y a pas d'agent de conservation? Là? Est-ce que c'est tout gaspillé? C'est tout perdu? Alors, on parle à cet entrepreneur et copropriétaire et directeur du Terminal Comedy Club dans un instant.